peut-être un petit peu moins commun, hein? Ça, ce que vous voyez sur le côté, le petit bureau, c'est le bureau de l'opérateur radio, ou du moins ce à quoi ça aurait pu ressembler sur le Titanic. Le gars à côté, c'était celui qui était l'opérateur radio, dont l'histoire se souviendra comme l'homme qui a coulé le Titanic. Pourquoi je vous dis ça? Cet homme-là, selon le National Geographic, recevait des messages, et bien avant qu'ils rencontrent les icebergs, ils ont reçu 6 messages de navires qui leur disaient « Faites attention, il y a des gros icebergs » qui leur ont dit, et je vais mettre ça en langage moderne, qui leur ont texté les coordonnées. « Soyez prudents ». Et après le 6e avertissement, M. Phillips, qu'on voit ici, a répondu à l'autre opérateur radio « Tais-toi, tais-toi, je suis occupé ». Il était en train d'envoyer les correspondances personnelles des passagers. Donc, encore là, je vais prendre un exemple moderne. Il était en train de texter des messages personnels. Et ne prêtait pas attention aux messages qu'il avait reçus. Comment? Tu as raison, Timothée. Effectivement, il n'y avait pas écrit les lettres comme quoi c'était urgent. Par contre, l'opérateur radio aurait peut-être pu deviner que si on dit « attention, il y a des icebergs », qu'on te le dit 6 fois, il y avait quelque chose de problématique. Rentrons dans le texte et on fera le lien ensuite avec cette histoire-là. Nous sommes ce matin dans le livre de Jean. Donc, plusieurs textes, en fait, les 4 évangiles nous parlent de l'entrée triomphale de Jésus. Vous savez, les évangiles, c'est des récits historiques qui nous rapportent les perceptions de 4 perceptions différentes sur le ministère de Jésus. Et ce n'est pas toutes les histoires qui se retrouvent dans tous les évangiles. Par contre, l'entrée triomphale de Jésus, c'est dans les 4 évangiles. Ce qui nous donne un indice que ce n'était pas un fait divers, c'était vraiment un fait d'actualité dans le ministère de Christ. Donc, commençons la lecture. Peut-être que vous allez avoir besoin de tourner. Je réalise que c'est un peu petit sur l'écran. Je vais lire pour vous ce matin. Donc, dans Jean 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent les branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant. « Hosanna! » Hosanna, c'est une expression qui veut dire « sauve donc! »« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus conformément à ce qui était écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Donc ici, Jean cite un passage d'un prophète qui a été écrit plusieurs centaines d'années avant Jésus. Sur le moment, on continue, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il l'avait appelé Lazare à sortir du tombeau, il l'avait ressuscité, lui rendait témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Donc, les foules ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas juste comme Jésus arrive à Jérusalem et là, ça s'adonne qu'il y a des gens qui ont des feuilles de palmier. Non, les gens étaient venus pour vraiment accueillir Jésus. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, et ça c'est un détail intéressant que Jean ajoute et qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, « Vous voyez, vous ne gagnerez rien, voici tout le monde se met à le suivre. » Donc vraiment, les pharisiens qui étaient opposés au ministère de Jésus à ce moment-là, en voyant les foules qui l'acclament, se disent « Ben là, on peut rien, il est même trop célèbre. » Ah! Et voici Jésus qui entre à Jérusalem. Marc, on a fait attention ce matin, alors que Jésus entre à Jérusalem sauvé, Seul qui l'acclame comme le roi d'Israël, celui qui va sauver, c'est pas rien quand même, celui qui vient au nom de Dieu. Et c'est cette même foule-là qui va scander, et on connaît le reste de l'histoire si on a été, ne serait-ce qu'un petit moment dans l'église, hein, le reste de l'histoire, c'est que c'est cette même foule-là qui va demander à ce qu'il soit crucifié. Juste une semaine après, très peu de temps après. Et l'une des questions que cela soulève, en fait, c'est la suivante. Jésus, le voyons-nous vraiment? Est-ce qu'on l'acclame pour qui il est vraiment ou pour ce qu'on aimerait qu'il soit ou ce qu'on perçoit de lui? Vous le saurez si vous avez parlé avec des gens en dehors de l'Église. Tout le monde n'a pas la même opinion par rapport à Jésus. Il y a des gens qui l'acclament comme étant un prophète seulement. Des gens qui vont l'acclamer comme un bon philosophe ou quelqu'un d'une bonne moralité. D'autres gens qui vont dire, c'est un homme qui a un impact historique et c'est là qu'ils vont le célébrer. Comment l'acclamons-nous, ce Jésus-là? Arrivons-nous à le voir, à le connaître tel qu'il est vraiment? Mais revenons un peu en arrière. Revenons à cette histoire du Titanic. C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que cette histoire-là peut être significative pour nous aider à comprendre ou à faire des parallèles avec l'histoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Voici quelques suggestions que je vous fais ce matin. Premièrement, les quatre évangiles nous présentent son entrée triomphale, comme je vous disais plus tôt. Il s'agit donc d'un fait d'actualité. Et un peu comme le Titanic, en fait. Le Titanic, les gens sont accourus d'un peu partout. C'était un scoop. C'était sur la première page du journal. S'il y avait eu un journal à l'époque de Jésus, très certainement, on aurait mis sur la couverture « Jésus, acclamé par les foules, entre à Jérusalem ». Et si c'était les pharisiens qui auraient commenté, ils auraient dit « Jésus, l'insubmersible, l'invincible ». C'est vraiment comme ça qu'ils le percevaient à ce moment-là. Et c'est comme ça que les foules le percevaient probablement aussi. Celui qui vient nous sauver, celui qui va venir nous délivrer avec force, celui qui ne s'abaissera pas, mais qui va s'élever. Là. Il est parti pour la gloire, il s'en va vraiment vers le haut. Là. On l'acclame parce qu'on sait que ça s'en vient, là, la délivrance d'Israël. On est rendu, on est proche, là. Et c'était la perception qu'ils avaient de Jésus à ce moment-là. Et c'était pour ça qu'il était capable de l'acclamer. Très certainement, les gens se sont réjouis quand ils ont vu le Titanic parce qu'il y avait cette perception-là. Hey, l'insubmersible, la gloire de l'être humain, wow! On croyait que les deux étaient, entre guillemets, insubmersibles. La deuxième chose où on avait notre idée de qu'est-ce que voulait dire insubmersible, on sait que Jésus est tout-puissant, on sait qu'il est ressuscité, et c'est le message de la Pâque, mais la perception que les gens avaient de qu'est-ce que voulait dire son invincibilité n'était pas la même que ce que Dieu avait planifié. Une autre chose qu'on apprend un peu dans cette histoire-là, ou un parallèle que je voyais, c'est celui-ci. Entendre et voir n'est pas suffisant. Il faut comprendre et agir. Donc, les disciples ont dû comprendre les prophéties qui avaient été faites à l'époque de Jésus ou avant le Christ par rapport au Messie. Ils les avaient déjà entendues, mais le texte nous dit qu'ils ne les ont pas compris sur le moment. Il a fallu qu'ils retournent vers l'Écriture, il a fallu que Dieu éclaire leur intelligence. Il a fallu qu'ils comprennent et non pas seulement qu'ils entendent. Toutes les gens dans cette foule-là avaient bien entendu ces textes-là qui étaient lus à la synagogue de manière fréquente. Ce n'étaient pas des textes nouveaux. Les pharisiens, les sadducéens, les chefs de la loi, ce n'étaient pas des textes nouveaux. Ils les avaient entendus, mais ils ne les avaient pas forcément compris. Et les disciples ont eu besoin de mettre leur foi. Donc, comprendre, c'est une chose. Mettre sa confiance, s'appuyer sur quelque chose, c'en est une autre. Et si on pense à notre opérateur radio, entendre n'a pas été suffisant. Il a entendu le même message 6 fois et pourtant, il n'a pas compris. et l'histoire nous dira qu'il n'est pas allé vers le capitaine. L'entrée n'a pas agi. Et voyez-vous les répercussions? L'entrée triomphale de Jésus nous rappelle l'importance de connaître Christ pour qui il est, l'importance de l'accueillir, l'importance d'arriver devant Dieu avec un cœur ouvert, avec un cœur prêt à le recevoir. Et c'est ce qu'on veut cultiver ce matin en nous, cette attitude de cœur-là qui est ouverte à recevoir Dieu tel qu'il est, à se laisser enseigner. « Seigneur, enseigne-moi par ta parole qui tu es et brise en moi les perceptions qui sont peut-être erronées. » On peut être chrétien depuis plusieurs années et encore, on a besoin d'être transformé. Ce n'est pas chose finie lorsqu'on a accepté Christ. C'est juste le commencement. Et donc, Christ nous appelle ce matin à l'accueillir, indépendamment de là où on se trouve spirituellement. Mais peut-être vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas su voir ou comprendre? Qu'est-ce qui fait que l'opérateur radio n'a pas compris, outre le fait là, que ces petites lettres n'étaient pas là? Un petit sens de déduction de base aurait pu nous aider à comprendre qu'il y avait un risque. Et que cette foule n'a pas compris, en fait, le ministère de Christ. Pourtant, il y avait toutes les informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous aveugle? Eh bien, là, je vais vous amener un petit peu dans le contexte qu'on retrouve autour des textes dans les évangiles qui nous rapportent l'entrée triomphale. L'une des choses qui m'a frappée alors que je préparais ce message-là, alors que je regardais dans les textes qui environnent, c'est qu'il y avait vraiment un thème dominant qui était ramené par les quatre évangiles à proximité de l'entrée triomphale. On parlait d'un thème qui s'appelle l'aveuglement. Et voici ce que je vous propose. L'aveuglement est la cause de l'incompréhension. Donc, on parle d'un aveuglement, évidemment, qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Et l'aveuglement est le résultat de notre nature pécheresse, du fait qu'on a désobéi à Dieu, qu'on est né dans un état de séparation avec Dieu. Je vous donne un exemple du livre de Jean, au chapitre 12 aussi, qui dit ceci. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait, que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par Ésaïe. Et Ésaïe a dit encore pourquoi. Il a dit pourquoi ils n'arrivaient pas à croire. Voici ce qu'il a dit. Il cite Ésaïe. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas de leur cœur et qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. C'est un texte qui amène un peu d'incompréhension, on peut avoir de la difficulté à saisir. Ce texte est aussi utilisé et cité dans les autres évangiles. Et lorsqu'il est cité dans les autres évangiles, il est cité dans un contexte où Jésus donne des paraboles. Et il dit aux autres, ça n'a pas été permis de le comprendre, mais à vous, oui. Donc, à ceux qui désiraient sincèrement suivre Christ, leurs yeux étaient ouverts. Mais voici ce qui se passe quand on est exposé à la vérité. Hein? Quand on est exposé à la vérité de manière continue, notre réaction se démontre. Il y a un endurcissement qui naît ou une tendresse de cœur. Soit la première fois, il a eu, soit il s'endurcit. Un petit peu comme cet opérateur radio-là. La première fois, il l'a écouté. Ce n'est pas la première fois qu'il a dit « Tais-toi, tais-toi, je suis occupé. » C'est après l'avoir entendu plusieurs fois, il a démontré « Voici où était son cœur. » Et c'est un petit peu comme ça dans nos vies. Ça peut être un peu comme ça aussi dans nos vies. Si notre cœur n'est pas disposé à accueillir Jésus, à accueillir ce qu'il veut nous dire, que ce soit pour le salut de notre âme ou pour notre croissance spirituelle, il y a un endurcissement qui est créé par l'exposition à la vérité continue. Cette vérité-là, elle cherche à pénétrer notre cœur, notre âme, mais on doit la laisser. On doit la laisser. Une autre question qu'on pourrait se poser et à laquelle on trouve réponse dans le texte, dans le contexte encore des Écritures, c'est celle-ci. Comment Jésus perçoit-il notre aveuglement? C'est aussi dans le contexte des Évangiles, dans Luc 19, tout près encore de l'entrée triomphale, qu'on apprend que l'aveuglement de notre cœur attriste Jésus. Voici ce que le texte nous dit. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et il dit, « Si seulement tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à quoi? À tes yeux. » On pourrait le reformuler en disant, « Mais maintenant tu es aveugle à ce qui peut te donner la paix. » Frères et sœurs, le cœur de Dieu, c'est que tout le monde voit. Mais voici comment Jésus répond à tout cela. Alors, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi si moi, dans ma nature, dans ma chair, je suis aveugle? J'ai de la misère à voir. Je ne suis pas sûre si c'est Dieu qui me parle. Je ne suis pas sûre si c'est vrai, cette affaire-là de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Voici une autre histoire qui se retrouve dans plus d'un évangile, à proximité encore de l'entrée triomphale, qui nous assure que Jésus veut nous aider à retrouver la vue. Et en fait, ça se retrouve dans les trois évangiles synoptiques, cette histoire-là. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » Jésus s'arrêta, les appelant et dit « Que voulez-vous que je fasse? » Ils dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Mon frère, ma sœur, tu veux accueillir Christ ce matin dans ton cœur. Tu veux l'accueillir de manière continuelle dans ta vie comme chrétien. Crie vers lui. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir nos yeux spirituels. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider à le voir. On a besoin de son intervention. Et quelle belle histoire qui nous rappelle que Jésus est ému de compassion pour nous et qui désire ouvrir nos yeux. Donc, Jésus veut nous aider à retrouver la vue. Encore faut-il crier vers lui. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que les aveugles n'ont pas recouvert la vue avant d'implorer Jésus. Il faut lui demander. Dieu ne nous force pas à sortir de notre aveuglement spirituel, mais il nous invite encore et encore. Et je crois de tout cœur que Jésus est un petit peu comme ces autres navires-là qui disaient « Oh, iceberg droit devant, iceberg droit devant! » Et encore, il nous appelle et nous appelle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si on lit le récit de Matthieu, Matthieu nous dira et continuera à citer le passage que Jean utilisait. Il dira, « Voici, ton roi vient vers toi, humble et doux, monté sur un ânon. » Jésus, souvent, nous appelle à l'accueillir et vient vers nous de manière très discrète. Ce n'est pas nécessairement avec le tonnerre, le vent violent et toutes ces choses-là extraordinaires. Il peut venir vers nous très simplement. Jésus veut nous aider à retrouver la vue, mais encore faut-il étudier et méditer sa parole. On est chanceux quand même. Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Il a permis qu'à travers tous les anges, on ait un recueil de toutes ces hommes et ces femmes-là à qui il a parlé, qui s'appelle la Bible. My! C'est le fun, ça! Gloire à Dieu! Nous voyons que pour que les yeux des disciples s'ouvrent, ils sont retournés vers les Écritures. On s'est souvenu que c'était écrit, ça! Ça avait été prophétisé, puis ça s'est passé exactement! exactement comme Dieu l'avait dit? L'opérateur radio aurait pu s'arrêter et réfléchir, hein, méditer aux implications des avertissements qu'il avait reçus. Parfois, Dieu nous parle à travers sa parole. Parfois, il vient vers nous, si je pourrais dire, monter sur un frère ou sur une sœur à travers le biais de parole, peut-être qu'on va recevoir, ou d'avertissement d'un frère ou d'une sœur. Parfois, c'est à travers d'autres gens, même parfois à travers des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est important de prêter attention. Évidemment, garder un cœur attentif, cultiver ce cœur-là. Hein, taisez-vous, je suis occupée, ça va t'amener à faire naufrage. C'est ce qui s'est passé pour le Titanic et c'est ce qui se passe aussi pour nous. Il y a des voies dans nos vies de conseils que Dieu a placés, qu'on est appelé à ne pas faire taire, mais plutôt à prêter à l'oreille et à soumettre ça devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que ça vient de toi, ça? Je veux être attentif à toi, puis OK, peut-être que tu peux me parler à travers quelqu'un. Je veux être attentif, Seigneur. Je veux t'accueillir. Maintenant, juste au cas où vous n'étiez pas certain et que vous vous demandiez, moi, je suis déjà chrétienne, en quoi ça me concerne? J'ai déjà accueilli le Sauveur de mon âme, il est dans ma vie, je le veux sur le trône de mon cœur, comme on dirait en bon petit jargon chrétien, je veux que ce soit lui le boss, ça va, j'ai déjà fait ce pas-là. Eh bien, frères et sœurs, l'Écriture nous enseigne que ce n'est que le commencement, comme je vous disais plus tard. On cultive une vision, hein, une compréhension de Dieu qui ne va être totale que dans l'éternité. Donc, il y a toujours de la place pour grandir. Il y a toujours de la place pour maturer. Il y a toujours de la place où on peut accueillir Christ de manière plus personnelle. Et voici, en Corinthiens, ça nous dit ceci. « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de façon peu claire. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement comme j'ai été connu. Donc, cette discipline-là d'accueillir Christ, d'accueillir sa voix, d'accueillir sa parole, d'accueillir sa personne dans nos vies. Ça débute avec la nouvelle naissance et ça se poursuit toute notre vie chrétienne jusqu'à notre décès ou jusqu'à ce que Christ revienne. Quelle joie de savoir qu'on va continuer à apprendre sur Dieu, qu'on n'est pas arrivé, qu'on va continuer à grandir, que Dieu continue de faire route avec nous. Quelle joie! Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais ce matin. On demeure attaché à sa parole et c'est ce qui aiguise notre vision. On demeure à l'écoute de son Saint-Esprit et c'est ce qui aiguise notre vision, ce qui fait qu'on est capable de l'accueillir dans des domaines peut-être de notre vie où on ne lui avait pas vraiment fait de place avant, où on ne l'avait peut-être pas encore acclamé comme Seigneur et comme Sauveur. Notre Jésus est victorieux. Et si je pouvais continuer avec cet exemple-là du Titanic, vous savez, le Titanic, on le croyait insubmersible. Il a fait naufrage, il a coulé. Hein? Lorsqu'on entend le message de la croix, c'est un peu souvent là, quand on n'a pas accepté Jésus dans son cœur, que ça s'arrête. Hein? Jésus a été acclamé, il devait être insubmersible et il a été crucifié. Et c'est comme si l'histoire s'arrête là. Mais la Bible, elle nous dit que Christ est ressuscité. Et c'est un petit peu comme si, après le naufrage du Titanic, hein, les gens qui avaient contribué à la construction de ce bateau-là vous avaient dit, « Mais non, on a vu le Titanic ressurgir de l'eau. Hein? » Il dit, « Oui, bien justement, celui qui avait bâti le Titanic nous avait dit que ça allait arriver. » Et donc, c'est extraordinaire quand même. On ne s'attendrait pas à ça. Et c'est ça la résurrection aussi. C'est « wow! Oh là là! » Mais accueillir cette vérité-là, ça nous demande de la foi. Ça dépasse notre intelligence. Si on s'arrête à notre intelligence humaine, on va dire, bien là, c'est bien trop sensationnel. Comment est-ce que ça se peut? Ça demande la foi, frères et sœurs, pour accueillir Christ. Ça demande, je dirais même, une intervention surnaturelle, d'implorer notre Sauveur de nous délivrer de notre aveuglement. Ouvre mon cœur, Seigneur, aide-moi à voir, aide-moi à croire. Alors, ce matin, je termine avec ceci. Jésus vient vers toi. Choisiras-tu de le voir? Cette semaine, je vous invite à méditer sur moi. Est-ce que je vais le voir pour qui il est? Est-ce que je vais l'acclamer, mon Sauveur, de tout mon cœur? Est-ce que je vais l'acclamer et continuer à l'acclamer, même peut-être quand je ne comprendrai pas trop qu'est-ce qui se passe? Même quand je vais peut-être avoir l'impression qu'il y a un naufrage dans ma vie. Est-ce que je vais être capable de continuer à l'acclamer pour qui il est? Est-ce que je vais être capable de garder la foi? Christ mérite notre adoration. Il mérite d'être acclamé dans nos vies. Et il peut être acclamé, frères et sœurs, même quand on ne comprend pas. Parce qu'après, quand on reste attaché à lui, quand on lui demande d'ouvrir les yeux de notre cœur, il nous aide à comprendre ces moments-là plus difficiles dans nos vies que dans le moment où on ne comprenait pas. On va prier ce matin. Je vous invite à, si vous n'avez pas eu l'opportunité encore de faire de la place dans vos cœurs pour Christ, je vous invite à saisir cette opportunité-là ce matin. Ou si peut-être vous réalisez ce matin qu'il y a une forme peut-être de lassitude dans votre vie, que vous n'avez plus trop envie d'accueillir Christ ou que, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas reçu quelque chose qui m'a touchée de la part de Dieu. Je vous invite à l'inviter à ouvrir vos yeux spirituels, à vous aider à le recevoir comme votre Sauveur, mais à recevoir aussi de lui toutes les bénédictions qu'il veut vous donner à travers une compréhension plus grande de qui il est, de sa parole. Prions, Église. Éternel mon Dieu, tu es tout-puissant. Et Seigneur, c'est toi qui peux nous délivrer de notre aveuglement. C'est toi, Seigneur, qui peux nous aider à t'adorer en esprit et en vérité, de manière constante, de manière totale. Seigneur, nous déposons devant toi toutes les incompréhensions qui nous habitent. Nous déposons, Seigneur, devant toi notre peut-être désintérêt qui a grandi avec les années, notre sentiment d'avoir peut-être tout compris, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu fasses renaître en nous ce désir de t'acclamer pour qui tu es. Cette constance-là aussi dans la louange, de continuer à t'acclamer, même dans ces moments où on a l'impression que c'est un naufrage dans notre vie, même dans ces moments-là qu'on n'a pas l'impression de comprendre. Garde-nous, Seigneur, de l'endurcissement de nos cœurs, Père. Nous voulons demeurer attentifs à ta voix. Et nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu ému de compassion devant nous et que tu te plais à ouvrir nos yeux. Donc, ouvre nos yeux, Seigneur, et aide-nous à te recevoir comme notre Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen.